Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique tous les vendredis en direct à Radio Canu de 13h à 14h. Aujourd'hui avec nous dans les studios, nous avons Gauthier Marchado.
Salut. Bonjour, Gauthier. Salut.
Nous avons Léa Good. Salut.
Bonjour,
Léa.
Bonjour.
Et nous avons ma pomme, Pauline Thiraud, à la technique. On vous propose aujourd'hui de découvrir un texte d'Elisabeth Gonsalves, La migration des canards, qui est édité au théâtre L'École des loisirs. C'est un texte qui a été édité en 2013 et on vous laisse le découvrir tout de suite. Je maîtrise l'art de m'extraire de moi-même. Je n'ai plus honte, je ne suis plus fautive. Je ne pense plus, je ne juge rien. Je n'en veux à personne. J'ai acquis sous les coups une force. Je comprends que des choses se passent autour de moi. Je sais que l'on réclame moins de cris. Je sais que celui qui crie hurle aux autres de se taire pour qu'il accomplisse sa tâche, celle de punir. Cette tâche dont il se serait bien passé, cette tâche que le ciel lui impose alors qu'il désirait autre chose. Il désirait la vie des autres, ceux qui n'ont pas à se plaindre de leurs enfants, de leurs femmes, ceux qui peuvent rentrer chez eux et ne pas avoir à subir la médiocrité de ceux qui sont sous ses yeux, une femme incapable de punir et une enfant incapable de briller, unis dans leur débilité pour le faire souffrir. Moi, je suis l'enfant et moi, je regrette de ne pas être ce qu'il faut. Moi, je vois la mère qui ne sait plus si cela est de sa faute, si elle provoque tout cela par sa douceur. Moi, je vois la mère qui est la femme du père et se soumet à lui, par peur et parce qu'elle pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'enfant. Et elle, s'il ne s'agissait que d'elle, elle partirait, peut-être. Moi, je ne sais pas si la mère est une alliée ou une collabo. Moi, je sais que la mère essaie de rendre doux les entre-tempêtes. Moi, je sais qu'elle essaie de rattraper, d'effacer, de retarder le moment du prochain ouragan. Ses gestes sont volontairement précis et lents. Certaines secousses trahissent la peur cachée.
La mère ne veut pas que l'enfant pense qu'il y a un problème. Elle questionne l'enfant pour savoir pourquoi elle ne fait pas en sorte de ne pas provoquer le père. Elle lui demande de se taire et de s'excuser. Elle lui demande d'essayer de faire de son mieux. Elle lui demande de bien travailler à l'école. Elle lui explique que le père et elle ne veulent que son bonheur, que toute leur vie est dédiée à cela. Mais pour y arriver, il va falloir qu'elle les écoute et fasse comme ils disent. Le père ne veut que son bien. Il fait cela pour éviter le pire. La mère cite des exemples des enfants des autres, dont les parents ne sont pas là, ne s'occupent pas d'eux. Ces enfants sont seuls. Ils feront n'importe quoi, par chance, ils s'en sortiront. Mais la plus grande probabilité est que leur vie sera gâchée. Le père et elle veulent la protéger du monde et des autres, qui jugent et mettent de côté très vite ceux qui ne savent pas s'adapter.
Moi, je... 10 ans. Et ils m'affirment qu'ils m'évitent le pire. Sans eux, moi je suis destinée à être mise sur la voie qui mène aux caisses. il me protège et moi je vais à l'encontre de tout ce qu'ils font.
Le père dit qu'elle ne peut pas encore rire ou s'amuser. Cela est réservé à ceux qui n'ont pas le diable au corps.
Elle, à chaque fois qu'on ne la surveille plus, elle va directement là où on lui interdit d'aller. C'est automatique. Le père l'a épié. Qu'avait-il fait au ciel pour mériter cela ? La mère emmène l'enfant pour qu'elle s'évade ensemble dans les rayons du supermarché. La mère lui achète des choses pour qu'elle soit heureuse. La mère demande à l'enfant de faire des efforts, de promettre qu'elle ne me commettra plus d'erreurs, qui énerve le père. Bien sûr, le père n'a pas toujours raison, mais il ne faut pas le contrarier. C'est pire.
L'enfant ne devra pas dire qu'elle a reçu un cadeau de la mère, parce que le père ne veut pas qu'elle en reçoive. Elle ne le mérite pas. S'il l'apprend, il s'en prendra à la mère, comme il l'a déjà fait. L'enfant ne veut pas cela. L'enfant garde les secrets. La mère aussi, parfois, s'achète des petites choses. Il ne faudra pas le dire non plus. Il faudra dire, seulement si le père le demande, que c'est un cadeau de la dame du troisième. Il faudra garder le secret. Le père sera satisfait que l'argent ne soit pas dépensé. Il considérera ses cadeaux comme des frais en moins.
Le père puisera des informations, des exemples de vie et de pensée en observant les gens chez qui il travaille. Imitera leurs gestes, se taira quand il faut se taire.
La mère se liera d'amitié avec des femmes plus âgées dont elle écoutera les vies pour oublier la sienne. Parlera de son enfance et rendra des services, apportera à dîner à des femmes esselées, sonnera pour donner le courrier et restera un certain temps avec certaines personnes à écouter et discuter. Le père passera à la loge où ils vivent, tous les trois, si c'est un jour où l'enfant n'a pas école. L'enfant sera là, assis à son poste devant le bureau, en train de travailler.
Le père ne demandera qu'une seule chose à l'enfant. Où est ta mère ? Le père ne parle jamais à l'enfant quand la mère n'est pas là. Lorsque la mère n'est pas là, le père peut au maximum dire trois phrases. Et si la situation se tend, il sortira en adressant une menace à l'enfant, ou restera en disant que ce n'est pas fini et qu'ils en reparleront quand la mère sera là.
Lorsque la mère rentre, le père, assis, ne dira rien un temps et commencera à énoncer les raisons de son insatisfaction. Et demandera à la mère de justifier son temps, estimé trop long pour la remise du courrier.
Que ce temps est une des causes de la nullité de l'enfant. Que son empathie ou les demandes de tolérance de sa part ne sont pas recevables, puisqu'il ne peut fermer les yeux une nuit sans que les choses se passent mal. Il s'excuse auprès de l'enfant et de la mère. Mais il doit punir le devoir non fait et le bureau en désordre.
Il doit punir.
Les fautes d'orthographe et la dictée mal faite.
Il doit punir.
Les ratures sur le cahier.
Il doit punir.
Le commentaire bavard de trop en classe sur le cahier de correspondance.
Il doit punir.
Ne travaille pas assez.
Il doit punir.
Élève dans la lune.
Il doit punir.
Il doit sanctionner ses fautes pour éviter le pire. La honte sur la famille. Il doit démentir que l'enfant de la gardienne, l'enfant des pauvres immigrés, est d'une race inférieure. Il doit combattre les préjugés. Il doit montrer que tous les immigrés ne sont pas les mêmes. Il doit montrer qu'il n'appartient pas à la masse. Il doit continuer à se taire lorsqu'il comprend que l'amabilité des riches est dédaigneuse. Il garde ses pensées. Il donne la meilleure éducation à l'enfant. Elle ira dans les mêmes écoles que les riches. L'école de la République, peut-être. Mais pas pour son enfant, qui porte dans son nom la misère de l'échec, dans son nom le destin tout tracé de ceux qui viennent du pays de la valise en carton. Dans son nom
l'assimilation à tous ceux qu'il appelle les idiots,
les stupides,
les ignorants,
ceux qui n'ont pas eu de chance, certes sous prétexte qu'ils sont analphabètes, mais qui ont l'effronterie de s'exprimer dans un français incompréhensible, ceux qui refusent le soutien scolaire pour leurs enfants parce qu'ils ne vont pas s'arrêter de vivre pour faire des heures de ménage en plus. Tout passe dans le crédit pour la maison au pays. Les enfants auront un toit, et si l'école ne veut pas d'eux, ils feront un métier, puis ils rentreront d'où ils viennent. Le français, ce n'est pas leur langue, ce n'est pas leur faute. Ils peuvent se plaindre de l'incompétence des instituteurs, qui leur demandent de soutenir leurs enfants. Ils veulent bien qu'il y ait du rattrapage, mais gratuit. Ils ne veulent pas jouer à la police. Certains diront cela au professeur. D'autres diront « Oui, madame, oui, monsieur » et raconteront leur indignation à leurs proches. D'autres, peu, essayeront de combattre. Mais rien ne leur garantira la réussite de leur enfant.
Le père et la mère ont tout fait pour que cela ne se passe pas comme ça pour leur enfant. Le père et la mère ne s'adressent à l'enfant qu'en français. Leur langue, ils la parlent entre eux, pour eux. Pour eux, c'est trop tard. Ils consacreront leur vie à ce que leur enfant ait une vie sans le labeur du corps. Ils feront tout pour que leur enfant n'ait qu'à être assis et commander. Commander ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir eu des parents qui les mènent sur les chemins de la réussite. L'enfant paiera des gens pour faire ce qu'ils font tous les jours, eux, et pour tout le monde. Des ménages. Leur enfant ne fera pas le ménage. D'ailleurs, la mère ne fait pas faire le ménage à l'enfant. La mère fait tout pour l'enfant et le père qui laisse tout traîner et salisse ce qu'elle nettoie. L'enfant et le père réclament le linge propre et repassé à la mère.
Le père ne veut pas mettre certains vêtements qu'il ne veut pas abîmer. Ou qui font de lui un guignol. Le père ne porte pas d'uniforme. Le père travaille, il ponce, il scie, il peint, avec ses vêtements.
La mère recoud, détache, lave, repasse et se plaint discrètement. Le père lui retournera la faute.
Elle n'avait qu'à lui donner d'autres vêtements ou lui préparer des vêtements de rechange.
La mère avait pourtant prévu d'autres vêtements, là-bas, dans l'armoire, au cas où. Le père dira, comme toujours, qu'il n'a pas le temps de chercher les choses. Elles doivent être prêtes devant lui, dans sa main. Le père proclamera à la famille qu'il n'a pas le luxe d'attendre, de prendre le temps. Le père a faim. Le père a soif.
Le père doit pouvoir avoir à sa disposition les papiers qu'il demande.
Le père doit retrouver les papiers qu'il a perdus dans le meuble que la mère doit ranger.
Le père doit voir la maison rangée.
Le père rapporte ses outils et abandonne ses affaires.
Ses tronçonneuses.
Ses scies.
Dans leur loge.
Leur maison.
Leur niche de fonction.
Le père ne peut plus voir tout ce bordel de vêtements.
Le père ne veut pas voir tous ces tas de vêtements à repasser.
La mère accumule trop de vêtements à repasser des gens de l'immeuble.
Le père dit que la mère ne demande pas assez.
Que la mère travaille trop lentement.
Les bonjours. Il dit à la mère qu'elle est trop perfectionniste. Il peut même dire que les gens ne perçoivent pas sa valeur. Il dit qu'elle est une femme parfaite. Il dit « Ma femme est gentille » et l'embrasse.
La mère ne dit rien. Le père vient l'embrasser. Elle détourne la tête. Le père rit et se moque de la moue de la mère. Il l'embrasse sur la joue.
L'enfant les regarde. Au début, moi, je me disais que les choses allaient devenir calmes, se pacifier, mais l'accumulation des tempêtes a introduit le doute. Moi, je... Une fois, dans l'œil de la serrure qui séparait les deux pièces de notre habitation, moi, je... Vois ici la mère affectueuse avec le père. La mère a rendu des baisers et serré le père contre elle en lui disant des mots doux. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, que j'étais définitivement seule et que la mère était faible ou pire. Je dois m'en sortir en déjouant ces deux êtres. Je décide de ne plus embrasser ni toucher aucun de ces deux-là. Je ne me ferai pas avoir par les illusions de tendresse. J'attendrai de pouvoir m'échapper. Je décide face à eux de ne plus manifester d'émotion. Je ne dirai rien au père. Je répondais aux questions et criais sur la mère quand le père était absent. Je pouvais hurler sur la mère. Je remplaçais le père.
L'enfant avait décidé qu'elle ne ferait pas perdre la face à ses parents. Elle se comporterait comme il faut devant les autres.
L'enfant ne pouvait pas aller aux anniversaires parce qu'elle ne pourrait pas rendre l'invitation.
Tous les autres enfants avaient de très grands appartements.
La mère répondait aux invitations par un remerciement sincère, accompagné d'un cadeau pour l'enfant.
Mais le rendez-vous chez le médecin ne pouvait être décalé.
Si les invitations étaient le samedi...
Elle pouvait dire qu'il partait en week-end.
Malheureusement.
Si les parents proposaient de prendre l'enfant pour le week-end...
La mère disait qu'elle demanderait au père.
Mais qu'elle le savait réticent à ce genre de choses.
Les autres mères... face auxquelles la mère se sentait mal à l'aise,
insistait,
essayait de trouver des solutions,
proposait de parler au père.
La mère devait répondre au téléphone, expliquer que le père travaillait beaucoup, qu'il n'avait pas eu le temps d'en parler, qu'elle ne savait pas quand il rentrerait. L'autre mère rappelait, la mère raccrochait, confuse et contrariée. Le père ne voulait plus qu'on le mêle à ce genre d'histoire.
Comment avait-il eu leur numéro ?
La mère se défendait. La liste du début de l'année. Tous les numéros y sont.
La mère était coupable. Que voulait-elle ? Le faire passer pour le méchant ? Pourquoi était-il obligé de combler une fois de plus l'incapacité de la mère à appliquer les règles ? N'était-ce pas clair que c'était impossible ? L'enfant ne le méritait pas. Que les choses soient claires et définitives. Si quelqu'un venait à savoir où elle habitait, les autres enfants se moqueraient d'elle. Elle n'aurait aucun ami. Tous les élèves la repousseraient, la considéreraient comme une fille de femme de ménage. Elle ne devait pas dire. Elle devait se taire si elle ne voulait pas que les autres la rejettent.
L'enfant riposta, évoqua la gentillesse des autres.
Le père haussa les épaules face à l'enfant, confirma sa désolation d'avoir fait face à lui, d'avoir face à lui un âne. Il s'attendrit, il lui dit
« Ma fille chérie, tu ne sais pas, toi. Tu as des amis, mais ils ne te connaissent pas. Ils pensent que tu es une autre. Tes amis ne savent pas qui tu es vraiment. Tu es ma fille. Je te connais. Et je t'aime parce que tu es ma chair. Mais je te connais. Nous avons le même sang. Et crois-moi, si tes soi-disant amis te connaissaient comme je te connais, comme tu es vraiment, tu n'en aurais aucun. Si tu ne me crois pas, tu verras. Au début, tout va bien. Mais une fois qu'ils te connaîtront bien, il n'y aura plus personne. Malheureusement, c'est la vérité. Ma fille, ne te fais pas d'illusions. Moi, je sais. Cela ne me fait pas plaisir de te dire ça, ma chérie. Oh non! Mais c'est la triste réalité. Ta mère et moi faisons tout ce que nous pouvons. Qu'est-ce qu'ils penseraient tes amis s'ils te voyaient mal répondre à ta mère comme je le vois te faire? Qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils voyaient comment tu ranges tes affaires? Qu'est-ce qu'ils penseraient? Ils ne se donneraient pas la peine de penser. Ils se diraient « Ah oui, celle-là, c'est une rien du tout ». Ils ne te parleraient plus, tes amis. Ils ne te poseraient pas de questions. Ils se diraient entre eux ce qu'ils pensent de toi. Ils diraient « Oh, celle-là, c'est pas la peine de lui parler ». Ils te prendraient au mieux pour leur boniche, s'ils te connaissaient. Et toi, tu continuerais à croire qu'ils sont gentils? Pour eux, tu ne serais bonne qu'à leur torcher les fesses? Sache aussi que tes amis, si tu as un problème, il n'y aura plus personne. Tes amis se serviront de toi tant que tu peux être utile. Laisse-moi te dire, ma fille, tu es là, avec tes rêves, à penser que tu es comme eux, les fils à papa, mais tu te prends pour qui ? Tu n'es rien. Si tu es là où tu en es, c'est parce que ta mère et moi, on travaille jour et nuit. Tu crois qu'on fait des ménages parce que ça nous fait plaisir? Tu es là, assise, comme un paquet de rien, un sac à merde inutile, à rêver, à faire ta difficile sur la couleur du cartable, et je ne sais quoi d'autre. Mais moi, je te le dis, je veux des résultats. Sinon, tu prends un balai et tu vas voir ce que c'est la vie. Mais ce sera trop tard. Tu diras comme une idiote, « Ah oui, c'est vrai, mon père avait raison, peut-être que j'aurais dû l'écouter. » Mais ce sera trop tard. Tu n'auras plus qu'à frotter si tu veux manger. Tes amis t'engageront peut-être pour nettoyer leur merde. Je serais malheureux, ma fille, de voir ça. Tout ce que je fais, c'est pour t'éviter ça. Et toi, tu es là, avec ta tête de victime, ta tête d'innocente qui se dit « Mon papa est méchant. Le monde est bien plus méchant que moi. » Quand tu auras mal au corps, parce que tu auras trop travaillé.
Quand tu t'arrêteras et que tu te rendras compte que le seul moyen de ne plus sentir les douleurs, c'est de continuer à épuiser ton corps.
Quand tu auras envie de dormir.
Mais que tu ne pourras pas trouver la tranquillité parce que ton ventre a faim.
Que tu as envie de vomir tellement ton estomac est vide.
Quand tu te demanderas comment tu feras le mois prochain.
Quand tu mangeras de la viande crue parce que le gaz est trop cher.
Quand tu cacheras ta faim chez les autres qui t'invitent.
Ma fille, tu ne trouveras personne qui voudra de toi. Personne. Sauf si tu dis ce que nous possédons. Les maisons. Alors là, oui, tu trouveras un homme. Il se mariera avec toi. Il sera très gentil. Il vendra ce que tu as et tu n'auras plus rien. Et tu ne seras plus rien. Et là, tu pleureras. Nous ne serons pas toujours là pour te protéger. Je te préviens. Mais si c'est à ça que ça sert que ta mère et moi soyons là, comme des esclaves, si c'est pour que tu dilapides tout, tu n'as aucune conscience. Tu ne te rends pas compte. Tu te plains de ta vie. Tu sais ce que je faisais à ton âge ?
Mon père venait nous réveiller à 5 heures pour aller bêcher.
L'estomac vide.
J'ai commencé à 7 ans.
Tu crois qu'on se plaignait, mes frères et mes sœurs ?
Si on voulait manger, c'était comme ça.
Il fallait travailler.
On allait à l'école pieds nus parce qu'il n'y avait pas d'argent pour ça.
Et si on avait quelque chose à redire ?
Mon père prenait sa ceinture et il ne s'arrêtait plus.
Ta grand-mère battait tous les enfants par peur que son mari la batte aussi.
Mon père a sorti ma sœur brillante de l'école pour la faire travailler dans les champs. Elle a continué à étudier en cachette. Elle lisait dans la nuit. Elle sortait pour aller aux toilettes et elle restait là, à travailler, sans que personne ne lui demande. Toi, tu te plains. Ton papa est méchant. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte de ta chance. Ta mère et moi te donnons ce que nos parents ne nous ont jamais donné.
On te donne la chance de réussir.
On te donne la possibilité d'avoir une vie meilleure.
Tu entends ta mère se plaindre.
Toi, tu es grossière. Tu n'as rien de raffiné. Tu as pris tous les mauvais côtés de la famille. Tu es allé piocher dans les plus orduriers de nos gènes. Je ne peux pas t'en vouloir, ma fille. Ça, tu n'y es pour rien. Mais moi, je sais. Fais-moi confiance. Je sais ce qui se passe si on laisse aller cette nature de cochon s'installer. Regarde-toi. Ta mère, elle a des gestes délicats. On dirait une princesse qui prend une fourchette. On dirait un oiseau. Ta mère n'est pas née dans le milieu qui lui convient. Ça se voit tout de suite. C'est pour ça que j'ai choisi ta mère. Sa délicatesse. Quand les gens voient ta mère sortir les poubelles, ils s'interrogent. Bien sûr. Ils se demandent ce que fait cette femme. Ils se demandent que fait la gardienne. Une fois... On rentrait avec ta mère et un monsieur très chic est rentré en même temps que nous. Ta mère a cherché les clés devant la porte de la loge. Il a attendu pour lui tenir la porte de l'ascenseur. Elle l'a remercié en disant qu'elle habitait là. Il a regardé la porte de la loge sans comprendre. Je t'assure, il ne comprenait pas. Il est monté dans l'escalier tout déboussolé. Cette femme était la gardienne. Tu sais, quand on voit ta mère dans la rue, on ne pense pas qu'elle fait des ménages. C'est pour cela que toutes les femmes chics du quartier veulent que ce soit ta mère qui vienne chez elle. Tu n'en trouves pas deux comme ta mère. Elle est discrète et raffinée. Elle parle délicatement et sans faute. Tu crois qu'ils font des efforts les autres ? Ils baragouinent. Et le pire, c'est qu'ils pensent parler français. Tu les vois, ils sont incultes et fiers comme des coqs. Mais si j'étais eux... Mais je me cacherais, je n'oserais pas ouvrir la bouche. Eux, non, ils sont là, ils se font prendre pour des cons et ils sont fiers de ça. Tu vois leurs enfants, c'est des gitans mal coiffés qui ne savent pas se tenir, ils n'ont aucun vocabulaire. Ils n'y peuvent rien, ils font comme leurs parents. Mais cette race-là, j'en veux pas. Je les mets le plus loin possible de moi. Je les croise, c'est bonjour et c'est tout. J'ai de la peine pour leurs enfants. Des innocents qui deviendront aussi cons que leurs parents. Par chance, il y en aura un qui fera des études. Et je suis sûr que leurs parents iront se plaindre qu'ils ne gagnent pas encore assez d'argent et que les études, ça coûte cher. Ces cons-là, ils vont être soulagés que tous leurs enfants n'aient pas voulu continuer l'école. Ils vont être contents, ces cons. Tu sais ce qu'ils pensent de moi et de ta mère ? Ils pensent qu'on est fous. Ils pensent qu'on en fait trop. Ils pensent que ta mère et moi, on ne sait pas vivre. Mais leur vie de misère, on n'en veut pas. Je les connais, leurs conneries. Je connais bien toute cette race. Ils sont bêtes et dangereux. Ce sont des animaux, des parasites. Ils sont là, ils sont prêts à se marcher dessus pour une cuisse de poulet. Des animaux sauvages. Ce ne sont pas des personnes civilisées. Ils ont l'air gentils, font des sourires. Ils trouvent qu'on a de la chance, qu'on tombe sur de gentils patrons. Des gentils patrons ? On travaille à toute heure, on rend des services, on ne touche à rien. Des gens comme ta mère, tu n'en trouves pas? Tu en connais beaucoup, des gens qui se lèvent en pleine nuit pour aller...
Vous êtes toujours au théâtre de la Gamelle et vous écoutez La migration des canards d'Elisabeth Consalves.
L'enfant sait que le père est capable de beaucoup.
Le père est fort et courageux.
Le père agit quand il faut.
Le père est pragmatique.
Il varie le nombre de coups, leur intensité, le matériel, l'endroit de la frappe selon la faute à corriger.
Le père peut se remettre en question et changer. Pour les mensonges, le père ne prendra plus la ceinture.
La boucle casse l'arrivée progressive du rouge sur le dos de l'enfant. La rallonge du fer à repasser n'a pas cet inconvénient. Si le père dérape, ne vise plus bien, la mère rétablira.
Non, 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 pas la tête, mon Dieu, pas la tête!
S'il y a une chose qui énerve le père, c'est que la mère s'interpose. Le père a assez de sa tâche, mais il lui assure que si c'est ce qu'elle souhaite, il peut s'occuper d'elle avant de reprendre l'enfant.
Les précautions de la mère ne sont pas inutiles. L'enfant se rendra compte plus tard qu'elle entend au moins bien d'une oreille, mais qu'effectivement, la trace dans le dos qui ne part pas ne présente aucun inconvénient. L'enfant décidera de considérer l'école comme un lieu vide. L'enfant décida de ne plus écrire. L'enfant décida de ne rien dire. L'enfant était devenu calme et parlait peu. Quand la cloche sonnait, l'enfant courait dans la cour. Elle courait vite, elle se précipitait. Poussée dans sa course les autres enfants,
La maîtresse comprit que l'enfant ne voulait que jouer. L'enfant était fainéante et indisciplinée. L'enfant ne faisait aucun effort.
Moi, je regardais les autres et je savais que j'étais différente. J'écoutais ce que les autres faisaient les samedis et dimanches. J'écoutais ce que les autres racontaient de leurs parents. J'écoutais les récits de vacances des autres. Ils jouaient avec des frères, des sœurs, des cousins, des oncles, des tantes, des parents qui leur faisaient des blagues, qui jouaient avec eux. Des parents qui faisaient les devoirs avec eux. Moi, si on me demandait où j'étais partie, j'inventais une destination et des activités semblables à celles que j'avais entendues. Moi, je ne partais pas en vacances pendant l'année. Moi, je restais à la loge et recevais des cours particuliers pour rattraper le retard ou prendre de l'avance. La femme qui donnait les cours affirmait aux parents que l'enfant était intelligente et que si elle faisait l'effort de se concentrer, elle serait une bonne élève. Elle faisait des fautes par inadvertance. Puisqu'elle savait corriger ses erreurs, l'enfant n'a aucun problème de compréhension. L'enfant comprend vite. L'enfant est intelligente, sans aucun doute. Il faut simplement être derrière elle pour la faire descendre de ses rêveries.
La maîtresse a écrit sur le cahier « Élève dans la lune. Ne travaille pas en classe. » L'enfant ne touche plus son stylo. N'ouvre plus sa trousse, ne lève plus la main, ne distrait plus ses camarades. Elle n'a plus peur de ne pas savoir répondre. Elle se tait, elle est muette. Le père et la mère sont convoqués. La directrice explique l'enfant, ses agitations, ses silences, ses immobilités. Une autre école adaptée à une enfant comme elle, il faut y penser, y réfléchir. L'enfant a un problème.
Le père interroge, répond, rétorque, défend, conteste, s'oppose, objecte, invoque, contredit, se lève, accuse, insulte. L'enfant n'a aucun problème. L'école, oui.
La directrice pleure. Le père se rassied. La directrice se mouche. Ils s'entendent. L'enfant passera des tests. La mère regarde l'enfant, le père se tait à son tour. Ni le père ni la mère ne parleront à l'enfant.
Dans la nuit, il y aura des cris. Plus de coups, rien ne se casse, rien n'est projeté. Moi, je vois la tête baissée de la mère, la lèvre supérieure contractée du père. Le poing rond sur la table et le père qui postillonne à la face de la mère.
Qu'ai-je fait au ciel ? Tu vois ce que tu fais ? Elle a le diable en elle. Je t'ai écouté. Sois plus gentille. Tu ne comprends pas. Elle est dangereuse. Regarde ce qu'elle fait de nous.
Le matin, le silence revient plus écrasant que les cris. L'enfant n'existe plus pour le père. La mère se tait à son tour sur le chemin de l'école. La mère ne dit plus « travaille bien ». La mère ne dit plus « n'oublie pas ton écharpe ». La mère ne dit plus rien.
Chut, chut, chut. Moi, je... Chut. Moi, je... Chut. Moi, je... Je suis seule face au mur, sur le côté, la fenêtre donnant sur la cour d'école. Je vois le ciel. De la loge, on ne voit pas le ciel, juste un mur sans fenêtre. En bas, le garage. Il faut sortir la tête par la fenêtre, se tordre le cou et regarder très haut. Je me promets que plus tard, j'habiterai face au ciel. Dans la pièce où je dors, il y a une fenêtre. Devant la fenêtre, il y a un mur.
En bas du mur, il y a un trou qui mène au garage souterrain. J'en suis sûre. Si je me concentre très fort, je pourrais y arriver. Il ne faut jamais douter. Jamais. Même pas une demi-seconde. Il suffit d'un toit, ne pas se faire repérer, attendre la migration des canards, battre très fort, pas très fort, très fort des bras et m'envoler avec eux. À cet instant, je suis immortelle. Vous venez d'entendre donc La migration des canards d'Elisabeth Gonsalves. Et dans le rôle du père, nous avions donc Gauthier. Dans le rôle de la mère, nous avions Léa. Et dans le rôle de l'enfant, nous avions Pauline. Voilà. Voilà, donc c'est une pièce qui peut aussi donc se lire à trois voix, mais qui est présentée par l'auteur également comme un monologue. Voilà. Et petite note, c'est un texte que j'ai découvert donc à Grenoble dans le cadre du festival Migrant Scène. Voilà, il a été joué par une compagnie là-bas dont je n'ai pas retenu le nom. Mais voilà, donc j'ai sauté sur ce texte et nous espérons qu'il vous aura donné envie de le lire, de le réécouter autrement. Alors, on va passer à notre petit agenda culturel. Quelle sortie, qu'aller voir, qu'entendre, que regarder? Eh bien, Léa, est-ce que tu as déjà une information à nous donner?
Eh bien oui, je peux vous parler d'une pièce qui s'appelle L'Opéra de Lily Cachou. En fait, c'est du théâtre musical de marionnettes qui est dédié aux petits, tout petits, puisque c'est pour les moins de 5 ans. Voilà, du coup, c'est la compagnie La Lune Noire. Donc, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, etc., vous avez envie d'emmener au théâtre, ça peut être l'occasion. Donc, c'est samedi à 10h30. Le Nid de Poule, c'est 17 rue Royale, pardon, dans le premier arrondissement, en dessous de Croix-Paquet. Du coup, je peux vous lire une petite présentation rapide. Ah bah oui, très rapide en fait. C'est Lily Cachou part à la recherche du doudou de Toto l'éléphanto, kidnappé par un mystérieux individu. Voilà, alors du coup c'est Carmel Petit qui a mis en scène, qui a créé, etc. Et si j'avais envie de vous le présenter, c'est parce que Carmel c'est aussi une collègue, voilà, et je pense que, enfin, d'après ce qu'elle m'a dit du spectacle que je n'ai pas vu, je pense que c'est vraiment intéressant, et puis c'est chouette ces initiatives de théâtre qui donnent envie aussi à notre public de demain, voilà, l'envie de découvrir des formes variées et exigeantes quand même si c'est du jeune public.
Alors oui, ça toujours, de toute façon, un jeune public où les adultes se font chier, c'est qu'il y a une erreur généralement. Donc ouais, au Nid de Poule, samedi à 10h30, donc on note pour Lily Cachou. Moi je voulais vous parler également d'une pièce de théâtre contemporain qui a déjà commencé de jouer mais qui joue encore ce soir et demain. Il s'agit d'un spectacle de Broutille et compagnie et la pièce s'intitule « Des rêves, des hommes et désirs ». C'est un texte et une mise en scène de Nicolas Guépin et le jeu est interprété par Amandine Vincent, qui est également une collègue que vous entendez souvent à la gamelle, n'est-ce pas ? On aime entendre sa douce voix. Donc, ce spectacle est un monologue, des rêves, des hommes et désirs, c'est au Théâtre de l'Uchronie à 20h30. Donc, Théâtre de l'Uchronie, c'est dans le 7e arrondissement, grosso modo, entre Guillotière et la rue de l'Université. Voilà. Vous avez le tram qui passe devant, c'est facile à trouver. Donc, c'est à 20h30 et c'est jusqu'à demain soir. Voilà, on vous espérera nombreux.
Et puis dimanche aussi, il y a une pièce qui s'appelle La Revue. Enfin, en fait, c'est pas une pièce, c'est une revue, vraiment. On vous en a déjà parlé au Théâtre de la Gamelle parce que du coup, c'est tous les deux mois, en fait, tous les deux mois, le dimanche, que ça se produit. Et donc, c'est différent à chaque fois. C'est aussi au Nid de Poule, coïncidence, je fais la pub pour le Nid de Poule à fond aujourd'hui. Donc, je redis 17 rue Royale vers Croix-Paquet. Et donc, du coup, La Revue, c'est en fait une mise en scène de l'actualité de la semaine en une heure, avec une vingtaine de sujets traités sous la forme d'une succession de scénettes plus ou moins burlesques. Et il y a donc une heure pour naviguer entre l'actualité mondiale, nationale et locale grâce à des articles issus de journaux les plus divers comme sur la diplomatie, l'économie, la politique, les sciences, les faits divers, le sport, la société en général. Donc voilà, très varié. Et tout ça, c'est rythmé par des transitions musicales. Leur but est de rendre compte de l'actualité avec de l'humour, de l'esprit critique, du strass et des trompettes. Voilà, donc cette petite présentation vous donne un peu une idée de ce que c'est. Et moi, à titre personnel, j'ai vu deux revues comme ça. Là, je pense que c'est la quatrième. Et voilà, et ça vaut vraiment le coup. À chaque fois, c'est des super soirées où effectivement il y a une qualité théâtrale impressionnante pour un spectacle qui a été créé en 2 jours. C'est vraiment voilà, un marathon là, sur 2 jours. Ils sont à fond, ils brassent l'actu, ils réfléchissent, ils discutent, ils mettent en scène, et c'est super intéressant. Voilà, donc c'est la compagnie La Grenade qui fait ça. Donc là, c'est dimanche à 18h30 au Nid de Poule.
Bien. Eh bien, avec tout ça, on a quand même de quoi passer un excellent week-end sur des sujets divers et variés, autant des tribulations d'une femme seule avec énormément de choses à dire sur sa vie que partir dans l'imaginaire avec à la recherche d'un doudou que de plonger dans l'actualité justement avec des rires, des strass et de la musique. On va donc vous souhaiter un excellent week-end à toutes et à tous. Moi, je remercie encore une fois Léa et Gauthier d'avoir participé à l'émission. On se retrouve au Théâtre de la Gamelle la semaine prochaine en direct sur Radio Canu de 13h à 14h. Et d'ici là, prenez soin de vous.
Merci Pauline. Merci. À bientôt.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires, snobles.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.